Neuf, le magazine. Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Je vous invite ce soir à revisiter Pablo Picasso. Une émission exceptionnelle puisque de tous les médias en France, nous avons la primeur du livre « Ma danse avec Picasso » qui vient juste de sortir. Et quel livre ! Plus que passionnant. De tout ce qui est publié sur Picasso, que de livres, que de revues, c'est désormais un ouvrage incontournable. Son auteur, Daniel Baudot, Laxine, écrivain et artiste. Sa vie aurait pu être consacrée qu'à la peinture, chemin faisant, elle devient aussi, et surtout, pour l'instant, écrivain. Selon moi, l'auteur, je devrais prendre le québécois pour en parler, avec un E, la plus remarquable et de plus en plus remarquée, enfin, dans le pays de grâce historique. Son premier ouvrage, 1993, Pierre le Migrant, 4 éditions. Ma danse avec Picasso est le 13e ouvrage. Les 12 précédents se sont vendus à 31 000 exemplaires, avec de grands thèmes, comme, j'allais dire, rendre hommage à toute cette civilisation paysanne de labeur et de valeur, et puis aux femmes au foyer, en racontant sa propre démarche dans le monde. Nous en aurons peut-être l'occasion tout à l'heure d'en parler. Daniel s'appuie avec talent sur la micro-histoire et ses livres sont toujours attendus. Daniel est avec nous en studio pour toute l'émission. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci de réserver la primeur pour découvrir avec vous votre dernier livre, Ma danse avec Picasso. En fait, je vous avais reçu dans Parole d'écriture en 2013.
Oui, oui.
Vous en souvenez ?
Absolument.
Et alors, nous avions parlé de ce livre, j'allais dire, sur Pablo Picasso, qui en fait est resté en attente. Nous en avions parlé, encore une fois, j'insiste. Puis, je vous avais encouragé à le produire, mais ma voix, à l'époque, ne devait pas porter suffisamment. Il a fallu un événement récent. Vous découvrez par la presse, le 9 février 2015, qu'une histoire se prépare sur un couple, lui, artisan, à propos d'un procès qui touche Picasso. Nous allons en parler, bien sûr, tout à l'heure. Et de ce fait, vous vous mettez à écrire. Vous partez, et probablement que le livre que vous nous présentez aujourd'hui aurait été très différent s'il n'y avait pas eu cet événement majeur. Alors, dans ce livre, selon moi, il y a quatre dimensions majeures sur lesquelles nous allons essayer d'échanger ce soir, et je vais surtout vous laisser beaucoup la parole. Le premier thème, c'est votre origine et votre famille. Russie, Espagne, France, et cette articulation avec Pablo Picasso, qui est quand même extraordinaire. Deuxième, c'est par vos parents, vous découvrez Picasso, une découverte comme adolescente qui reste à jamais en vous, j'insiste, je reviendrai là-dessus, une découverte avec un regard venant de votre enfance, émerveillé, spontané, magique. Et là, comment m'empêcher de citer ce passage de votre livre ? Nous n'avions jamais connu nos grands-pères, ni le russe, ni l'espagnol. Et comme depuis ma tendre enfance, je souffrais de ce manque, Pablo, tout naturellement, combla ce vide en devenant mes grands-pères. Tous les deux. Et je pense que nous sommes peu à peu, Irène, votre sœur et moi, passionnément attachés à lui. Nous étions pour lui les petites filles dont il rêvait. Voilà certainement une des clés pour comprendre votre livre. Alors, nous allons dans un deuxième temps parler de Pablo, de Picasso, et nous irons le plus loin possible. Puis la troisième étape, ce sera bien entendu un apport essentiel pour ce couple, Pierre électricien et sa femme Danielle, accusés l'un et l'autre de façon terrible et injuste, vous enquêtez beaucoup, vous explorez et vous mettez en valeur leur innocence dont vous êtes convaincu à propos de ces fameux dessins de Picasso. Vous allez au tribunal, vous témoignez, vous confrontez avec la justice, en tout cas, ce que nous nommons la justice, vous y allez courageusement. Vous êtes convaincu, je le redis, c'est important, suite à votre enquête très approfondie de leur innocence. Votre livre vise avant tout à restituer leur honneur, peu importe ce qui se passera en appel, bientôt à la cour d'Aix-en-Provence. En retour, ce travail, pour eux, enrichit bien sûr votre ouvrage, qui devient un autre regard sur Picasso, car tout ce travail que vous faites pour eux, pour leur honneur, enrichit d'une façon absolument extraordinaire, vous oblige d'aller encore plus loin dans votre mémoire, chercher les traces de Picasso. Puis la quatrième étape, ça sera bien entendu, le titre de votre livre, mais ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie, Ma danse avec Picasso. Daniel, avant de vous parler de votre regard sur Picasso, vos origines et votre parcours.
Disons, mon père venait, sa famille est arrivée en 1899-1900 du Caucase en France, à la suite de la famille Zanck. Donc c'était des familles de... mon grand-père était joaillier, il avait 6 enfants, et une chose comptait dans la vie, c'était l'art, la peinture, le piano, une fille pianiste, David, peintre, et la famille Zanck était là 10 ans auparavant, ce qui fait que Daniel Zanck, chirurgien-dentiste, avait déjà approché tous les peintres du bateau Lavoir, elle les soignait tout à fait gratuitement, ou bien avec un chèque peint, qu'il a été payé par un chèque, une peinture représentant un chèque, par Duchamp, je crois. Et donc, ils étaient proches de ce milieu. Ils se sont installés à Montmartre, en même temps que celui qu'on appelait l'Espagnol. Et évidemment, mon oncle David, qui avait 7 ou 8 ans de moins que Picasso, a été accepté par Rodin dans ses ateliers, c'est-à-dire son talent reconnu depuis tout enfant, un talent fabuleux. Il a été accepté aux Beaux-Arts. C'était quelque chose pour un étranger, atelier Courmont. Et j'ai la chance d'avoir un portrait de Picasso fait en 1907 par mon oncle David Laxine, qui est signé avec un X.
Que vous mettez dans votre livre.
Quatrième de couverture, voilà. Ce portrait qui est magnifique et qui montre un Picasso particulièrement sombre. Mmh. On le remarque, ça a été une période épouvantable de sa vie, parce qu'après période, c'est la période où il avait commencé à gagner de l'argent. Les gens s'intéressaient à son travail, période bleue, période rose, et il a cassé tout ça en osant peindre ce qui s'appelait le bordel de la rue d'Avignon à Barcelone, et qu'on appelait les demoiselles d'Avignon. Et il a continué, il n'a pas cédé, on lui dit « Que faites-vous des toiles dont personne ne veut ?» Eh bien, il a eu le courage de continuer à crever de faim, de recommencer plutôt à crever de faim, avec son adorable Fernand Olivier qui le soutenait dans la misère. Et pour ne pas changer, tant pis, il ne vendait rien. Et ça, je pensais toujours à ce que nous disait mon père, il faut être capable de mourir de faim pour la peinture. Donc Picasso correspondait à ces grandes théories. Il a été capable de mourir de faim pour la peinture.
Votre père.
Alors, mon père avait horriblement souffert du suicide de ce fameux David Laxine, qui s'est hélas suicidé à 22 ans. Donc, il était hyper doué, premier en tout, arrivé petit étranger, premier en tout, c'est invraisemblable, je sais qu'il y a une note. Et il a fait, comme Daniel Zanck, il a fait l'école dentaire de la Tour d'Auvergne. Il est devenu chirurgien dentiste. Une visite sur la Côte d'Azur, fou d'amour, et il s'installe à Golfe-Juan, puis à Cannes. Et tout en n'arrêtant jamais de peindre, de sculpter, il avait un grand, grand talent, avec le plus grand bonheur. Et donc, quand il a eu des enfants très tard, à 45 ans, maman a été sa troisième épouse. Il a eu 4 enfants en 5 ans, disons. Eh bien, son rêve, c'était d'avoir des enfants peintres, sculpteurs, c'est tout. À la rigueur, musicien. Et donc, nous avons été élevés au milieu des chevalets, au milieu des caisses de pâte à modeler, allant voir les vernissages de toutes les galeries. Et il n'y avait qu'une voie pour nous, c'était la peinture.
Alors, un jour, une certaine Jacqueline emmène Picasso.
Absolument. Papa avait comme client les ramiers qui possédaient la poterie de Madura. Et ils avaient employé Jacqueline comme vendeuse à un moment donné. Elle venait de divorcer. Et ils ont amené Jacqueline à mon père, qui a soigné Jacqueline. Et quand elle a eu bien confiance en lui, eh bien, elle a amené Picasso. Et c'est là, horreur. Comment mon papa va-t-il recevoir ce je m'en foustiste, cet imposteur? Tous les gosses sont capables de peindre comme lui, ce traître aux fauves. Parce que pour papa, il fallait s'arrêter au fauvisme. À part ça, il n'y avait plus de peinture. Il était ami avec Bonnard quand même. et il aimait Matisse aussi, mais Picasso représentait l'horreur, le traître.
Mais
et voilà que le traître vient.
Et finalement,
il a été séduit, je dis bien, par l'homme. Et en toute sincérité, tous les deux avaient de grandes discussions en se faisant des reproches, parce que les murs de papa étaient couverts de ses propres peintures, de nos peintures, des peintures de son frère. Et on m'a dit, comment Picasso n'a donné aucune œuvre à votre père? Mais papa, il les aurait mis dans les toilettes, les œuvres de Picasso. Il voulait des chèques qu'il n'aurait jamais accepté de peinture, de troc contre son travail, mais il a eu un grand respect pour l'homme, et ils se sont tellement bien entendus que papa a pu l'aider à lui couler des médailles en or. Toute une série de médailles en or qui ressemblaient à des médailles gauloises, et ça a été un grand bonheur.
Alors, nous allons entrer dans cette découverte de Picasso, et nous allons, dans un premier temps, écouter un texte de votre livre, lu par Anna, qui va nous introduire, justement, à la découverte que vous faites de Picasso. Écoutons ce texte, lu par Anna.
Assis dans son fauteuil, il ne quittait pas son œuvre en cours, et nous, tout à notre concentration, oublions sa présence. Mais lorsqu'il s'exprimait, il fut le plus fantastique des professeurs, nous conseillant, encourageant à dessiner continuellement, n'hésitant pas à me gronder, très contrarié une fois où, croyant lui faire plaisir, j'avais picassisé une peinture. Ne fais pas comme tant de jeunes peintres qui veulent commencer par où nous avons fini. Il voulait que nous apprenions les techniques, partions de la base, de l'observation, du dessin. Mon père me répétait, c'est à la main qu'on reconnaît la main. On ne commence pas une maison par les balcons, mais par les fondations. Les murs porteurs, puis on couvre du toit, et balcons et volets sont posés en dernier. Un jour, j'avais peint un blanc tout bête en me contentant d'étaler sur la toile déjà blanche une épaisseur de blanc. Mais ce n'est pas un blanc. Alors qu'il nous a pris à Irène et moi à brosser en sous-couche des couleurs vivantes et lumineuses, afin, après séchage, de les couvrir d'un léger glacis de blanc. Le résultat était bien un blanc, mais voilà qu'en transparence, toutes les couleurs, bien qu'invisibles, vibraient et donnaient à ce blanc une délicatesse et une qualité incomparables. Picasso nous enseignait ainsi l'art des sous-couches. Non seulement pour transcender un blanc, mais bien d'autres couleurs, et il suffit de contempler des toiles d'Irène pour y lire, dans ces fantastiques superpositions de couleurs, les leçons de Picasso. Une fois, comme maman jouait au piano la danse du feu de Manuel de Falla, au moment où Jacqueline et lui pénétraient dans l'appartement, il était venu frapper à la porte et s'était assis pour l'écouter, visiblement avec grand plaisir. Il nous offrait donc, avec gentillesse mais fermeté, des conseils exprimés non en grands discours prétentieux, mais en phrases courtes, toujours profondes, belles, poétiques et chargées de philosophie. Il m'arrivait d'y réfléchir le restant de la journée et le soir, afin de ne rien oublier, de noter ses paroles dans le petit carnet toujours présent dans le tiroir de ma table de nuit. L'art, il est partout pour celui qui sait voir. On peut faire de l'art avec tout et n'importe quoi. Avec lui, nous ne nous sentions pas redevables, mais en situation naturelle d'échange, car il était évident que nous lui apportions autant qu'il nous donnait tant il était serein et détendu en notre compagnie. Il se sentait bien loin des flatteurs qui le blessaient en ne s'adressant pas à l'homme, Pablo Picasso, mais en parlant faux, en tentant de plaire par intérêt à la célébrité.
Voilà, je crois que ça situe tout à fait le contexte, hein, n'est-ce pas, Daniel?
Oui.
Alors, vous l'avez rencontré, vous avez échangé avec lui, il vous envoyait son chauffeur pour regarder l'étoile. Il y a eu cette fameuse année 1961 où ils sont mariés, extraordinaire.
Oui.
Alors, parlons-en, sauf de la danse dont on parlera qu'à la fin.
D'accord. Pour nous, c'était extraordinaire parce qu'il nous envoyait son chauffeur pour nous montrer son travail de la nuit. C'est là, quand j'ai la femme qui suçait le pouce, pour j'ai fait un texte là-dessus, parce que, tandis que d'autres se disputaient à côté sur des questions d'argent, avec Jacqueline, disons, qui prenait ça en main, Picasso s'éloignait sur le sable, s'asseyait comme un Bouddha, comme ça, et moi j'allais m'asseoir à côté de lui, et je partageais son regard. Il regardait les baigneurs, surtout les baigneuses, surtout très belles baigneuses, il les regardait, et j'étais dans ses yeux, dans sa tête, je voyais en peintre, je comprenais. Et quand le lendemain, quand moi, après m'être couché bêtement, je m'étais endormie, lui avait commencé une nuit de travail. Et il nous a envoyé son chauffeur le lendemain, ma sœur Irène et moi, pour nous montrer ce travail de la nuit, des papiers par partout et chacune sur chaque papier, cette femme qui suçait son pouce dans les vagues se tordait et c'était extraordinaire. Et il n'hésitait pas à tourner, les toiles étaient tournées contre le mur pour deux gamines à tout nous montrer presque avec timidité. C'était extraordinaire et nous trouvions ça tout à fait normal.
Alors, vous dépeignez très bien, j'allais dire, ce que vous écrivez d'une façon absolument merveilleuse dans le livre. Il y a quand même un petit problème. Vous prenez des notes sur un carnet et un jour, après ce dont on parlera éventuellement tout à l'heure, vous décidez, j'allais dire, de faire disparaître ce carnet. Mmh. Et vous écrivez dans votre livre en larmes et sortant du tiroir de ma table de nuit mon si précieux petit carnet, après l'avoir relu une dernière fois, je l'ai déchiré, puis jeté. Il vous reste quand même quelques traces, Daniel ?
Dans ma tête. Tellement de choses.
Par exemple ?
Par exemple, j'ai les conseils qu'il nous donnait. Ce que vous avez dit, ne pas faire joli. Ne pas chercher à plaire. Ne pas penser à signer. Et nous remarquions, il ne signait rien. Parce que tout travail, pour lui, était une étude. Il nous l'avait dit. Et je me souviens, il voyait que je terminais quelque chose, que je fignolais. Arrête, ne fais jamais joli. C'était comme se prostituer, faire joli. C'était vouloir plaire à des clients, et ce n'était jamais son cas. Il ne vendait rien. Il avait assez d'argent pour ne pas vendre, il ne vendait qu'à ses marchands, jamais directement. Et en fait, le grand problème, c'était pour le faire signer. Signer voulait dire « j'ai terminé, je suis content de moi » et ce n'était jamais le cas. Et ça, c'est la plus belle leçon, c'est toute une leçon de vie qu'il nous donnait. Toute ma vie, j'ai suivi des idées de Picasso, pas forcément pour la peinture, pour éduquer mes enfants, pour leur parler, pour me conduire. Et je voyais comme il respectait les gens, on parle des accidents, des artisans, comme il respectait et comprenait les gens par leur morale. Il devinait les gens, il avait une intuition. Je voyais quand des gens l'approchaient, il sentait tout de suite qui s'adressait à la célébrité ou qu'il préférait presque les gens qui n'aimaient pas ce qu'il faisait. Au moins, il savait qu'il n'attendait rien.
Alors, Daniel, on va reprendre Picasso dans la deuxième partie, mais cette première partie se termine. Vous avez choisi de Brassens les funérailles pour rendre hommage à Picasso et à sa mort, 93 ans. Pourquoi ces funérailles que nous allons entendre tout doucement au fur et à mesure où vous nous parlez de sa mort?
Oui, parce que Picasso, quand il est décédé, Jacqueline était absolument épuisée. Je crois que peu de personnes peuvent imaginer à quel point, jusqu'au bout, elle l'a maintenue en vie. Et c'est ce que m'a dit Pierre Le Guénec. Il m'a dit qu'il n'aurait jamais pu vivre aussi longtemps sans elle. Nuit et jour, elle ne dormait plus. Elle l'écoutait respirer, elle était sans arrêt. Et quand il est mort, elle a ressenti comme une agression toutes les personnes à la grille. Elle ne les sentait pas forcément sincères.
Alors, donnons la parole à Brassens pour finir cette première partie.
Elle l'a fait enlever en cachette, voilà. Par une grille arrière.
C'est très bien décrit dans votre livre.
Corbillard, 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 corbillard de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés, 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 macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompons, pompons, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards tombent au grand ouvert, emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits.
Pour poursuivons, Daniel, cette émission, Ma danse avec Picasso. Tout d'abord, est-ce qu'il vous reste encore quelques traces à nous confier sur Picasso avant de passer à ce fameux procès ?
Il y en a un qui est très intense. C'est chez lui, à la Californie. C'était à la Californie. Il avait retourné des quantités de toiles pour nous les montrer, Irène et moi. Ma sœur qui est peintre à Paris, qui n'a pas trahi comme moi. Et je lui ai demandé, quand j'ai vu son attachement pour chacune de ses toiles, je lui ai dit, mais vendre des toiles doit vous faire souffrir. Et il m'a répondu, quand je vends une toile, c'est comme si je mariais une fille. Je suis content si le gendre est bon. Et j'ai tellement aimé cette phrase. Et j'ai compris, il ne vendait pas en direct, il donnait beaucoup, mais il ne vendait jamais en direct, ça se passait autrement. Mais il donnait beaucoup. Et maintenant, ce que je souhaiterais, c'est que des personnes, artisans ou des amis ou des descendants d'amis de Picasso, qui ont reçu quelque chose non authentifié, quelquefois non signé, s'il vous plaît, allez témoigner, parce que des personnes s'adressent à Pierre Le Guénec ou à son épouse, lui disent « Moi aussi, j'ai reçu quelque chose, mais je n'ose pas le dire, parce que j'ai peur d'un procès, j'ai peur des héritiers. » Mais tant pis, s'il risque quelque chose, il faut sauver ce couple qui est dans un état épouvantable, parce qu'on a tellement, on les a condamnés, 2 ans de prison avec sursis, à des amendes. Ils ont fait appel parce que ne pas le faire aurait été s'avouer coupable, m'ont-ils dit. Mais comment vont-ils supporter un appel si personne ne témoigne, si personne ne dit « moi aussi, j'ai reçu quelque chose », non authentifié, non signé, souvent, « je l'ai reçu, il faut le dire ».
Alors nous entrons dans ce couple condamné, vous venez déjà d'aborder le sujet. Daniel, la femme de Pierre, a cette phrase extraordinaire à l'égard de Claude. « Monsieur Picasso, je tenais à vous remercier de m'avoir fait connaître la cellule. » Je trouve ça, avec un tel panache, c'est impressionnant.
Oui, elle tient sa tête droite tout le temps. Elle souffre à un point, on ne peut pas imaginer, physiquement, moralement. Elle tient sa tête droite comme ça, je l'ai vu au tribunal. Et à cette fille, petite fille d'officier de gendarmerie, imaginez ce qu'est être enfermé en cellule, en garde à vue, interrogé, être cellule qui sent tellement mauvais qu'elle n'a même pas pu manger là-dedans. Et elle m'a dit d'ailleurs que les policiers étaient adorables avec eux, ne comprenaient absolument pas pourquoi ils étaient là, mais son mari a dormi là, a été interrogé le lendemain, et on utilise avec eux des termes qu'ils ne comprennent pas. Et on se moque d'eux au tribunal, on s'est moqué d'eux parce que on leur pose la question sur le musée d'art moderne de New York, MoMA, familièrement, et ils ne connaissaient pas ce mot MoMA. Non, ils ne connaissaient pas ce mot MoMA. Il aurait fallu interroger dans la salle, lever le doigt, qui connaît le mot. Et il m'a dit, si on m'avait dit musée d'art moderne de New York, j'aurais compris, puisqu'il a acheté des livres que j'avais. J'ai pu comparer les livres que j'ai, celui qu'il a, pour pouvoir faire le travail, un inventaire qu'il a fait, qui est complètement basique. On a dit c'est l'œuvre d'un expert, c'est digne, non, c'est digne d'un conservateur de musée, mais c'est à mourir de rire, pas du tout. Il a mis, voilà, ce cheval, il manque une patte, mais il avait oublié la queue, qu'il manquait la queue aussi. Et il met des choses basiques, il a pris, il sait observer. C'est un artisan qui a travaillé pour les plus grandes maisons, qui a étudié au château de Versailles, son apprentissage pendant 5 ans, qui a travaillé pour la Gacan, qui a travaillé pour les banques de France, qui a travaillé toute sa vie pour... Il a été des antiquaires. Il savait ce qu'était une toile, il savait ce qu'était un dessin. Donc il a décrit avec ses connaissances, papier épais, papier fin, un enfant de 7 ans saurait le faire. Toile, n'importe qui sait le faire. Et il a écrit des choses que j'ai trouvées tout à fait basiques, d'observation, attentive, il a mesuré. Mais ce n'est pas le travail d'un conservateur de musée. Je suis désolée, mais on l'a attaqué là-dessus et condamné là-dessus. On l'a condamné en utilisant des mots qu'il ne comprenait pas. Les experts étaient payés par l'administration Picasso, par le Picasso business pour moi. Et donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de personne indépendante pour le défendre. Quand on a dit que l'expert a dit le carton n'aurait jamais pu se garder dans un garage, d'abord il faut signaler que ce garage était son atelier d'artisan. C'est un atelier, sa maison et l'atelier sont parfaitement secs, aucune humidité. Et ses œuvres étaient dans un petit bureau, donc ils se sont gardés normalement au sec. pas de moisissure. Et on l'a accusé là-dessus, que c'était impossible. On a imaginé un trafic avec la Suisse, on a imaginé des choses qui les rend muets. Il m'a dit, je ne sais pas m'exprimer, moi je suis un manuel. Il est un manuel avec toute la morale, la haute morale des artisans. Des artisans, l'amour du travail bien fait, le respect de celui qui vous emploie. Il parle avec un tel respect de tous ses employeurs. C'est quelqu'un d'honnête qui est écrasé et c'est insupportable. Pour moi, c'est insupportable.
Et en fait, c'est bien Jacqueline qui lui a donné ce carton et pas Picasso, parce que là, il y a une confusion.
C'est impossible. Picasso ne lui aurait jamais donné ce carton. Mais comme il m'a expliqué, comme m'a expliqué sa femme, il a vraiment cru que Picasso était d'accord. D'abord, il est passé devant Monsieur Miguel, le secrétaire, qu'il a vu passer avec ce carton. Donc, Monsieur Miguel était informé par Jacqueline. Mais lui-même n'aurait jamais donné quoi que ce soit sans l'accord de sa femme. Tous deux m'ont dit, on est un couple. Jamais on a imaginé que Jacqueline ait pu faire quelque chose en cachette de Picasso.
Alors, vous prenez une citation dans votre livre, Daniel. La voici. Comme tant d'autres procès, celui-ci ne concerne pas la vérité. Il s'agit de gagner. Et afin de gagner, sans réelle preuve, Huvert, c'est la citation que vous prenez d'un livre dont vous allez nous dire dans un instant, doit en fabriquer et mentir et attaquer la vérité comme s'il la haïssait. C'est impressionnant cette phrase. C'est ce que vous avez ressenti.
C'est ce que j'ai ressenti. Je l'ai ressenti parce que je me suis sentie écrasée quand j'ai montré, j'avais apporté quelques pièces, par exemple Cadavre exquis que nous avions dessiné, nous nous amusions bien à dessiner avec Picasso, Jacqueline, il n'y avait pas l'homme à ce jour-là, une autre fois il y avait eu Claude, mais j'ai apporté un, il n'y avait pas l'homme, chacun a fait un dessin, retourne, et j'avais sur ce Cadavre exquis deux dessins de Picasso, et c'est là où Claude s'est levé, ce n'est pas la signature de mon père, je suis restée muette. Et non seulement la signature, mais la date était, il aurait dû voir que la date était de l'écriture de Picasso. Et ce n'est qu'après que j'ai regardé, c'est parce qu'il a joué sur les mots. Picasso, avec nous, était Pablo. Et il a signé Pablo. Comme j'ai signé Daniel, Jacqueline a signé Jacqueline. Mais ça, ça m'a paru déconcertant, malhonnête, méprisable. Voilà. Dans le but de gagner, on fait n'importe quoi et on perd son honneur.
Alors on ne dira pas, les gens liront le livre et on ne dira pas la décision que vous prenez à la fin de votre livre pour la suite, mais vous avez choisi pour ce soir une autre chanson de Brassens pour rendre hommage à ce couple, le petit joueur de flûte. Pourquoi ?
Parce qu'on lui a offert un blason et vous connaissez cette chanson de Brassens, le petit joueur de flûte menait la musique au château pour la gloire de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble.
Écoutons cette chanson de Brassens.
Qui correspond à cet électricien qui n'a rien à faire des millions de ses dessins.
Le petit joueur de flûte menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le croque-note. Avec un blason à la clé, mon lard se mettrait à gonfler. On dirait partout le pays. Le joueur de flûte a trahi, et mon pauvre petit clocher.
Voilà, alors nous allons passer dans cette dernière partie de l'émission sur Ma danse avec Picasso, qui est en fait le titre d'un chapitre. Et nous allons d'abord écouter Anna, qui décrit cette danse, parce que, chers auditeurs, écoutez bien cette danse avant qu'on en parle tous les deux, Daniel. Écoutez.
Très gai. Picasso se lève aussitôt, s'en vient attraper mon bras, me force à me lever en m'attirant fermement à lui et m'entraîne dans la danse. 79 ans, qui le croirait ? Musclé et agile, bras et mollets puissants, reins encombrés, il est un fier souriador maniant sa cape, moi, et me fait habilement virevolter tandis que je ris. Et ce soir, c'est Pablo qui me guide à son tour de ses mains petites, fines, nerveuses et musclées, exhibant sa souplesse et son éternelle jeunesse. Mais nous sommes parmi ses amis, et puis mon cavalier n'est pas mon père, mais mon grand-père de substitution. Alors je danse. Je danse et je ris. Je ris et je danse avec Picasso, sans aucune gêne. Car j'adore danser, alors je joue le jeu et je suis ses pas, joyeuse, lorsque tombe la foudre.
Alors, ce passage nous montre l'état d'esprit de la danse et le titre que vous avez choisi pour le livre, je crois qu'il ne pouvait pas y en avoir d'autre, Ma danse avec Picasso. Alors, avant, Daniel, de vous demander de réagir à cette danse qui est quand même un grand moment du livre, moi, je voudrais vous dire un petit peu ce que je pense. Parce que, pour moi, ça a été un moment très fort de l'écriture et j'ai été très touché par ce passage. Et je pense avoir compris seulement après une seconde relecture, le sens de ce titre que vous donnez au livre. Alors vous savez que parfois le lecteur va plus loin que l'auteur, alors je vais vous confier mon ressenti. Cette danse se déroule entre Pablo, 79 ans, et vous qui en avez 20. Cette danse explore l'invisible. Dans le symbolisme d'ailleurs, la danse cosmique est un rite d'identification au créateur et à la création. Elle dessine dans l'espace l'évolution du temps comme pour s'associer à l'énergie qui préside aux perpétuelles transformations du monde. Elle célèbre les forces de création, en création. C'est pourquoi Platon, par exemple, dit que la danse est d'origine divine. À ce moment-là, ma danse avec Picasso, je pense, selon moi, lecteur, Daniel, il y a célébration au-delà des âges de la vie, du vivant et de la création. En choisissant ce titre pour ce livre, il m'a semblé vous entendre me dire « Je célèbre Picasso » et lui de répondre, une autre phrase qu'on trouve dans votre livre, « C'est merveilleux de penser que lorsque je ne serai plus là, quelqu'un qui m'a aimé de cet amour vrai, au-delà et sans l'amour charnel, dira des choses justes sur moi. » J'ai l'impression que cette phrase de Pablo, elle s'adresse à vous. Bien plus, c'est lui qui parle pour vous dans cette dernière phrase absolument merveilleuse de votre livre, et ça, je peux la citer sans citer la décision que vous prenez. Vous faites dire à Picasso, pour défendre ce couple merveilleux, on dira par tous les pays, des héritiers l'ont bien trahi, mais Picasso reconnaît pour sien son brave monsieur l'électricien. Quelle phrase extraordinaire. Vous êtes au-delà les magouilles et au-delà une certaine justice si injuste, vous vous situez en position, selon moi, de méta-juge, de méta-avocat, de méta-justice. Vous n'avez qu'un souci. Votre seul combat, c'est de rendre l'honneur à cet artisan, artiste, et à toute sa famille. Et là, artisan, artiste, les deux sont liés. Et comment ne pas reprendre cette phrase de Picasso ? L'art, mais il est partout pour celui qui sait voir. On peut faire de l'art avec tout et n'importe quoi. Et je pense à cet artisan comme artiste. Combien d'artisans sont aussi des artistes négligés ? Là, Daniel, dans cette danse avec Picasso, c'est, il me semble, tout votre être, enfant, adolescence, femme, à la fois rebelle, résistante, combattante, qui surgit. Oui, vous êtes, au-delà de l'institution justice, magistrat et avocat, non seulement en prenant la défense de Pierre et de Daniel, dont vous apportez les preuves de leur innocence, vous vous engagez à refonder leur honneur, l'honneur de l'artisan et de l'artiste, l'honneur de l'homme juste, tout simplement, mais pleinement. Vous allez encore plus loin, parce que là, Daniel, pour notre monde en déculturation, en déliance, en décomposition, en quête de refondation, votre geste, votre écrit s'adresse à chacun. Combattre pour l'honneur de l'humain, de l'humanité. Votre pudeur vous conduit à garder le silence sur certaines épreuves de votre vie. Seul celui qui rencontre la mort sous une forme ou sous une autre peut être conscient de la vie, de sa vie. Et permettez-moi de citer l'une de vos devises, « Je crée ou je meurs ». Je crois que c'est votre cas. Votre plume vient de votre cœur, de votre être. Voilà ce qui a résonné en moi en vous lisant, à travers cette danse quasi sacrée entre Picasso et vous. Alors, je vous laisse réagir.
C'est magnifique ce que vous dites. Et j'ai écrit ce livre dans le bonheur parce que j'avais un but. J'avais déjà beaucoup écrit sur Picasso, bien sûr. Mais là, il y a eu cette motivation de défendre ces gens et j'espère atteindre ce but qui n'est pas des millions de ces dessins. Ils n'en ont rien à faire. Ils ont construit leur maison de leurs mains. Ils ont l'amour de leurs enfants. Ils avaient tout pour passer une vieillesse paisible et heureuse au soleil à Montsartou. Et leur vie est gâchée en ce moment. Et si je leur rends leur honneur, Qu'importe ce qui se passera en appel au tribunal. J'espère que ce livre leur rendra leur honneur et c'est pour eux la seule chose qui compte, pas les millions.
Ils l'ont entre les mains, ce livre, depuis peu.
Oui.
Comme moi, comment réagissez-vous ?
Incroyable. C'est pour eux incroyable. Ils ne savent même pas que dire, une émotion immense. Et c'est le début pour eux de la guérison. Ils vont aller mieux. Ils vont aller mieux.
Ils ont été très touchés.
Très touchés. Incroyable. Incroyablement touchés. Et j'ai mis des photos de lui. Je l'ai mis à l'honneur puisqu'on veut le faire passer pour un changeur d'ampoule, pour celui qu'on appelle parce qu'un plomb a sauté. Pas du tout. C'est un grand professionnel. Il a reçu une médaille. C'est un grand professionnel que tous ses employeurs ont respecté et que Picasso puis Jacqueline ont absolument respecté.
Voilà, vous comprenez mieux à partir de ce que Daniel vient de vous dire. Que Ma danse avec Picasso, c'est pas n'importe quel livre, c'est pas seulement la défense d'un artisan, d'un artiste, d'un être humain, d'un juste, c'est bien plus que ça, c'est un cri que Picasso, là où il est, doit se dire, j'ai bien fait de passer autant de temps avec vous, Daniel.
Oh, merci.
Alors, au terme de cette émission, dire et redire que votre livre, Daniel, est incontournable pour comprendre Pablo Picasso, pour contribuer, je crois, comme lecteur aussi, à refonder l'honneur de ce couple, Pierre et Daniel, lui artisan et aussi artiste, et peut-être d'être plus conscient de l'autorité de la plume et de l'écriture, comme vous venez de le faire. Alors, cette émission s'achève, et avant de vous redonner la parole pour terminer, je voudrais tout simplement rendre hommage à un autre Pablo, Pablo Neruda, qui vient de retrouver sa tombe après des années où il l'a quitté, 43 ans après sa mort, parce qu'on a fait des examens, on a voulu savoir comment il était mort, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a été empoisonné, et comment, une fois de plus, ne pas dire ce merveilleux passage de Pablo Picasso qui rejoint Pablo Neruda, et ainsi réciproquement. Alors, Pablo Neruda, là, je le cite, il meurt lentement, celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas, celui qui n'écoute pas de musique, celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt celui qui détruit son amour propre, qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement, celui qui devient esclave de l'habitude. Je crois que c'est un chant, c'est un poème que Pablo Picasso aurait pu aussi, j'allais dire, écouter. Alors, je relis les deux et je vous laisse la parole pour finir l'émission.
Pour finir l'émission, eh bien, j'ai eu l'impression qu'on tirait avec des canons, tirait des boulets sur des moineaux. Et j'espère qu'avec ma petite plume, j'arriverai à arrêter ces boulets de canon et à aider ces gens. Voilà. Et à faire connaître Picasso, un Picasso, mon Picasso. Il y a eu tellement de Picasso. Les gens le détestent en ce moment très souvent quand je parle avec eux parce qu'ils ont lu des livres terrible contre lui, et j'espère que, effectivement, quelque part, il se dit que je lui rends justice.
Votre livre, finalement, Daniel, c'est un hommage à deux artistes, à deux artisans, à deux justes, Pablo Picasso et Pierre. Merci, Daniel.
Merci.
Et à bientôt, au mois de mai, maintenant, pour la prochaine émission.